Je vous la raconte parce que elle évoque quelque chose qui a été assez fort dans ma vie et j'aimerais faire ressortir cela avec vous ce matin. Je me souviens, alors c'était, j'avais pas encore la vingtaine et mon parcours de vie jusque-là, dans mes relations, dans mes fréquentations, c'était pas le top. J'ai grandi dans un quartier plutôt mal fréquenté. Et mon caractère que j'ai forgé à ce moment-là était plutôt un caractère dur et rebelle. Et justement, dans cette période de ma vie, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai pu constater qu'en réalité, beaucoup de relations que j'avais bâties, que ce soit sentimentales ou que ce soit relationnelles, amicales, n'étaient que superficielles. Et j'ai pu aussi constater malheureusement que les conséquences de ma nature rebelle et dure avaient généré des conflits, avaient généré beaucoup de conflits bien néfastes auprès de ma famille. Bref, cette période a été marquée par un moment où je me suis retrouvé bien seul. Bien seul, dans ma voiture, accompagné juste de deux choses en réalité, l'alcool et d'autres substances illicites. Je me souviens particulièrement de toutes ces nuits que j'ai passées seul dans ma voiture sur ce parking qui n'était pas très loin de ma maison, en tout cas de la maison où j'avais grandi. Et même si j'étais fier et que j'aurais tout fait à ce moment-là pour ne pas perdre la face, notamment devant mes parents, eh ben j'avais quand même un sentiment au fond de moi. J'aspirais à quelque chose de particulier. Est-ce que vous savez de quelle envie j'étais animé à ce moment-là? Est-ce que vous le savez? Je vous le dis juste après. Peut-être d'ailleurs que vous l'avez déjà vécu dans votre parcours de vie. Par exemple, une histoire toute bête, quand vous faites du camping, si vous n'êtes pas fan de camping, et que vous vous retrouvez une nuit, deux nuits à dormir dans une tente faite pour trois personnes, mais vous êtes quatre dedans, et que vous n'avez pas de matelas pneumatique. Les nuits sont dures et pénibles. Et à ce moment-là aussi, vous avez une envie. Vous aspirez à quelque chose. Vous savez à quoi vous aspirez? À Dieu? Rentrez à la maison. Ok, on va éviter les questions ce matin. Je parle simplement du fait de, effectivement, d'avoir envie de retourner à la maison, de reprendre le chemin qui me conduit chez moi. Cet endroit où je me sens bien, où je peux me reposer tranquillement. Et parfois, les circonstances de la vie nous rappellent cela, qu'il est bon de se retrouver à la maison. Qu'il est bon de se retrouver aussi dans la maison du Seigneur. Ce matin, je trouvais que le psaume que nous allons partager va dans ce sens. Qu'il est bon de retourner à la maison. Et j'aimerais juste parler de cela avec vous ce matin en lisant le psaume 84. Alors je vous invite à prendre votre Bible si vous l'avez pour partager ce psaume avec vous. Psaume 84. Au chef de chœur sur la guittite, qui est une harpe, psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, éternel maître de l'univers. Mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es mon bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Alors, ce matin, l'invitation que j'aimerais nous lancer ensemble, c'est de reprendre le chemin de la maison de Dieu. Et c'est vraiment la pensée que j'aimerais vous laisser ce matin, parce que ça implique la question, qu'est-ce que je comprends, moi, de la maison de Dieu ? Qu'est-ce que c'est, la maison de Dieu ? Est-ce que c'est le fait de venir à l'église ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le fait d'avoir une religion qui me fait aller dans un lieu où la présence de Dieu est ? Mais j'aimerais cheminer avec vous. Alors, où pouvons-nous trouver la maison de Dieu ? Lui qui est omniprésent, réside-t-il à un lieu bien précis ? Le mot sanctuaire dans le psaume qu'on vient de lire, ou temple ou maison, renvoie à tous ces termes, maison, temple, habitation, et renvoie particulièrement, je crois, à des événements qu'on connaît lorsqu'on lit l'Ancien Testament, à deux maisons que nous pouvons voir que le peuple juif a construit. La première maison est le tabernacle, vous savez, à l'époque de Moïse. Le peuple a construit une sorte de tente qui devait être ce sanctuaire où Dieu habitait au milieu de son peuple. Et puis, une deuxième représentation qu'on trouve dans l'Ancien Testament est celui du temple de Jérusalem, que David a voulu construire à Jérusalem pour que Dieu ait une résidence fixe. Et c'est Salomon qui construira cette résidence. Le mot sanctuaire m'a aussi fait penser à deux autres choses, à deux moments particuliers. Le premier moment particulier auquel cela m'a fait penser, se trouve aussi à l'époque de Moïse, mais cette fois-ci avant la construction du tabernacle. Le moment où le peuple se situe devant le mont Sinaï, ça vous parle ? Il y a à ce moment-là un spectacle extraordinaire. Dieu se manifeste, la montagne tremble, il y a du tonnerre, il y a du bruit, il y a du feu. Et c'est vraiment un spectacle de lumière et de son, comme la fête de la lumière à Lyon, une fois par an, mais puissance 10 000. Vous voyez le scénario. Un autre épisode aussi de la Bible qui m'a interpellé, c'est simplement aussi un événement qu'on attend, l'espérance que nous avons. Nous avons quoi comme espérance ? Jésus-Christ revient. Amen ? Jésus-Christ revient. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer lors de son retour ? Eh bien, lorsque nous ayons les prophètes, par exemple le prophète Zacharie, montre qu'il va avoir une nouvelle Jérusalem qui va s'installer, qui va descendre du ciel et se poser à Jérusalem. Et Zacharie dit quoi ? Il dit qu'à ce moment-là, des nations, et toutes les nations viendront à Jérusalem pour faire quoi ? Pour adorer et louer Jésus-Christ. Sous-entendu, il y aura de nouveau un temple ou un endroit où le nom de Jésus-Christ sera célébré. Et les prophètes disent quoi de ce temple ? Qu'il surpassera tous les temples, tout ce qui avait pu être fait jusque-là, parce que sa gloire sera inimaginable. Alors, lorsque on regarde à ces quatre épisodes que j'ai cités, je voulais juste attirer notre regard sur une chose, sur la splendeur, la beauté, tout ce qui nous émerveille lorsqu'on regarde des images, que ce soit du tabernacle, que ce soit du temple à Jérusalem, par exemple, on voit qu'il y a eu beaucoup de matériaux qui ont été utilisés pour la construction, de l'or, du bronze, des matériaux précieux. Et la finalité de cette construction, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder en image de synthèse comment le temple de Jérusalem est fait. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'or, il y a des espaces énormes. C'est vraiment splendide. Alors même si je m'attarde ici sur le côté extérieur que ces habitations révèlent, ce qui m'a interpellé aussi dans ce psaume, c'est un peu la façon dont le psalmiste nous conduit devant ce sanctuaire. On a la façade et il fait un petit peu avec nous comme un guide, vous savez, un guide touristique qui nous emmène visiter les lieux touristiques. Alors il nous fait contempler l'extérieur de cette maison, ici des événements qu'on a cités, ce temple magnifique ou ce tabernacle. Et puis il veut nous emmener aussi dans le parvis. À un moment donné, il est question de dire au verset 3, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Et nous sommes dans la cour. Et puis, encore un peu plus loin, il dira, « Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. » Et il rentre à l'intérieur de ce tabernacle. Alors, je crois que pour cet homme ici, qui écrit ce psaume, il y a vraiment des choses qu'on peut retenir pour nous. Quand il écrit ce psaume, pour lui, il n'y a rien de plus désirable que de prendre un rendez-vous avec Dieu. Rien de plus désirable pour lui que d'être dans ce temple, et même dans les parvis de ce temple. Et même dans ce psaume, il est dit en filigrane qu'il est presque jaloux des oiseaux qui nichent dans la cour de ces temples. Ou même encore, on ressent chez lui comme une envie d'être à la place des prêtres, parce que les prêtres, à ce moment-là, habitaient très proche du temple. Cet homme, on l'a lu aussi, on chante un chant très souvent, qui dit « Vaut mieux un jour près de toi que mille ailleurs ». Il le dit ici dans ce psaume. Cet homme est prêt aussi à donner des années de sa vie pour un jour dans la présence de l'Éternel. Alors je ne sais pas quelle est la définition pour vous du bonheur. Comment définirions-nous le bonheur excellent ? Est-ce que c'est la réussite professionnelle ? Est-ce que c'est la réussite familiale ? Est-ce que c'est avoir un compte en banque plein d'or ? Est-ce que c'est avoir une maison, cette fois-ci physique, avec des ornements dessus ? Pour le psalmiste, pour celui qui écrit ce psaume ici, la réponse est évidente pour lui. Le vrai bonheur, c'est d'être dans ce temple. C'est d'être dans la présence de Dieu. Et il trouve du bonheur en cheminant même jusqu'à ce temple. Puisqu'il est dans les parvis, il célèbre déjà en amont, il se prépare. Oui, pour lui, ce temple est un lieu extraordinaire, un lieu où l'on peut présenter des offrandes à Dieu et se présenter officiellement devant lui pour un rendez-vous, lui déposant nos fardeaux, nos tristesses, notre reconnaissance, déposant aussi devant lui notre honte et notre engagement. Ce lieu, en quelque sorte, pour ce psalmiste, est un lieu dans lequel on ne ressort pas de la même manière qu'on y est rentré. Alors cet homme sait que ce n'est pas le temple, ce n'est pas la structure qui est magique, mais que ce qui fait son bonheur, c'est le fait d'y rencontrer Dieu personnellement. Ce que cet homme a découvert et connaît, c'est que c'est Dieu la clé du bonheur, c'est Dieu lui-même la source du bonheur. Ce psaume nous rappelle plein de qualités de Dieu, nous disant que sa lumière est plus rassurante et plus réconfortante que le soleil. Il est dit aussi que sa protection est plus grande que les plus grands rois ou les plus grands boucliers qui existeraient. Même, il est dit dans ce psaume, même si je traverse des moments compliqués, la vallée des pleurs, même si des moments sont rudes dans ma vie et même désespérés, desséchés, même ces sols qui sont asséchés, qui sont rudes, peuvent devenir des oasis, et ce n'est pas parce qu'on est à l'église d'oasis que je dis ça, mais des oasis, quand Dieu intervient. La présence de Dieu transforme tout ce que nous vivons. Il est plus grand que le soleil, meilleur que le plus grand des boucliers pour nous protéger. Alors, lorsque nous réfléchissons à la maison de Dieu, où est cette maison de Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cela nous écarte déjà très vite de ce lieu, nous écarte très vite des constructions en pierre et en vitraux. On pourrait avoir le plus beau lieu, la plus belle des églises, la plus grande, avec une fresque refaite sur ce mur, les belles peintures que j'invite à faire bientôt. Parce que quand même, il faut représenter l'éclat de la personne de Dieu. Cela ne veut pas dire nécessairement que nous sommes dans la maison de Dieu. Ou cela ne voudrait pas dire forcément que cette demeure est la maison de Dieu. Pareil pour notre chez nous. Des fois, je visite des chrétiens et ils ont, vous savez, des croix sur les murs, des versets sur les murs. De la même façon, ce n'est pas ce qui fait ou qui donnerait la caractéristique à une maison d'être cette demeure. Cette habitation de Dieu. La maison de l'Éternel je crois que nous renvoie aussi à cette notion du culte que nous vivons moins récemment, ou en tout cas différemment, nous renvoie à cette notion du culte où Dieu est adoré. Parce que le psalmiste parle de la présence de Dieu, parle de cette réalité que Dieu est là. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a permis la construction du tabernacle ou du temple, c'était pour une chose. C'était pour qu'on lui rende un culte et qu'on puisse l'adorer. Et d'ailleurs, le culte dans l'Ancien Testament englobait toute la vie des Israélites. Elle réglait leur journée, elle réglait leur sabbat, elle réglait les nouvelles lunes, les fêtes, les années sabbatiques. Tout était l'occasion de vivre le culte. Et dans une des réalités concernant le culte de l'Ancien Testament, on voit aussi une chose, que les sacrifices étaient vraiment au cœur du culte. Et que les prêtres et les lévites, notamment, étaient ces médiateurs qui permettaient à l'ensemble du peuple de faire des sacrifices ou de rentrer dans ce culte qui serait valable aux yeux de Dieu. Alors j'aimerais juste faire une parenthèse ici, parce que lorsque nous réfléchissons sur la façon dont le culte est géré dans l'Ancien Testament, cela va pointer une problématique que j'aimerais relever avec vous ce matin. Il y a des problèmes d'accès au temple. Alors je vous donne une description de comment était fait le temple de Jérusalem. Il y a dans le temple de Jérusalem trois espaces. Vous les connaissez ? Il y a un espace très saint, le lieu très très saint. Oui, tu le connais, super. C'est l'endroit où l'arche de l'alliance avait été placée, et dans cette alliance, dans cette arche, dans ce coffre, était placée la loi de Moïse que Moïse avait gravée. Elle était placée dans ce coffre, et dans cet espace très saint, uniquement le grand prêtre pouvait venir, et une seule fois par an, pour faire le grand sacrifice du pardon pour le peuple. Il y a un deuxième espace dans ce temple, c'est l'espace simplement saint. Alors simplement, c'est déjà pas mal, saint. Et cet endroit était accessible uniquement aux prêtres qui pouvaient y rentrer. Et enfin, on avait un troisième espace qui était adressé à tous les croyants d'Israël, et c'était cette cour qui était à l'extérieur du temple. Il y a donc ici une chose intéressante à noter. C'est qu'un croyant lambda, un croyant normal à ce moment-là du peuple d'Israël, ne pouvait jamais pénétrer dans le lieu très saint. Jamais. Même d'ailleurs, le prêtre lambda ne pouvait jamais y aller. D'une certaine façon, à part le grand prêtre et une fois par an, ne pouvait jamais rencontrer Dieu d'une manière pleine. Le verset 12 de notre psaume qu'on a lu ce matin dit ceci, écoutez, « Voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. » Donc ça décrit Dieu, mais la suite est intéressante. Il dira « Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. » Et dans d'autres versions, il y a « Dieu donne le bonheur à celui qui est intègre. » Vous savez ce que ça veut dire, le mot « intègre » ? Mener une vie droite, mener une vie parfaite. Ce que je suis en train de signifier avec vous ce matin, c'est que Dieu offre le bonheur à celui qui mène une vie parfaite. Car Dieu, ce verset dit que Dieu est bon, il est généreux. Mais devant cette première face de Dieu, cette qualification de Dieu, il y a une deuxième qualification de Dieu. Dieu est juste. Donc, devant la générosité de Dieu, il y a aussi la justice de Dieu. Pour bénéficier de la bonté et de l'amour de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui fait amour sans justice. Dieu est parfaitement juste dans son amour. Et qu'est-ce que l'image du temple nous apprend sur notre vie, ou sur la vie de tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu dans ce lieu très très saint ? Il n'y a personne qui vit une vie juste et droite, intègre, parfaite. Donc personne ne peut bénéficier du bonheur que Dieu aimerait tant donner. Ça, c'est un constat. Personne n'est digne de recevoir cet amour de Dieu. Personne n'est digne de la présence de Dieu et de recevoir de sa main toutes sortes de grâces et de bénédictions. Ok ? On ne va pas en rester là. Dans la tradition juive du culte, il y a aussi quelque chose d'intéressant à relever, que j'aimerais relever avec vous, c'est que devant le peuple, quand ce peuple allait vers ce temple ou allait vers des célébrations, il y avait une personne qui était devant ce cortège. Et cette personne, c'était le roi. Ou un autre mot qui qualifie ce roi, c'est Messie. Et le roi, ce Messie, était équipé, lui, parce qu'il avait été oint, pour conduire ce peuple. Et même lui, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, tous les rois ne pouvaient pas rentrer dans l'espace, même des prêtres, et encore moins dans l'espace trois fois saint, ou très très saint, pardon, du temple. Et d'ailleurs, même quand on peaufine un peu, le grand prêtre qui allait qu'une fois par an tremblait avant d'aller dans le lieu très saint, et il attendait que le peuple puisse prier pour lui, pour qu'il revienne vivant. Alors, ce psaume révèle quand même quelque chose d'assez fort, je crois, parce que ce monsieur qui écrit ce psaume ne pense pas à Jésus-Christ, mais révèle que, justement, nous avons tous besoin d'un Messie différent, d'un roi différent, qui pourra nous conduire jusqu'à ce lieu trois fois saint. Et le roi devra mener une vie parfaite et juste, parce que Dieu est juste. Ce roi devra répondre à tous ses sacrifices. Ce roi devra être aussi un grand prêtre pour pouvoir aller jusque dans le lieu très saint. Il montrera sa justice devant Dieu, il offrira sa justice en faveur de ceux qui le suivent. Ce cortège derrière lui bénéficiera de sa justice, de son sacrifice, de son statut de roi, de ce statut de Messie. Et bien évidemment, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, vous voyez où je veux en venir. Christ est ce Messie qui a été capable de déchirer le voile qui nous séparait du lieu trois fois saint et de la présence de Dieu. Parce que Christ a vécu une vie juste et Christ a été et notre prêtre et notre roi pour nous permettre de rentrer dans le lieu où Dieu est présent. Et promesse extraordinaire que j'aimerais rappeler avec vous ce matin. Le Nouveau Testament parle de tous ceux qui sont enfants de Dieu. Sont quoi ? Pardon ? Sont des nouvelles créatures et ça signifie quoi au fond ? Qu'est-ce qui s'est passé au fond de nous ? C'est vrai qu'avec les masques, désolé, j'ai du mal à comprendre, vous articulez pas très très bien. Effectivement, nous sommes devenus, nous qui sommes enfants de Dieu, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ sont devenus enfants de Dieu, et cela signifie quoi ? Que Dieu a fait de nous son temple, son habitation. Le lieu de la rencontre avec Dieu se passe à l'intérieur de nous maintenant, par Jésus-Christ et par la présence de son Esprit en nous. Lorsque nous lisons tous ces termes qui renvoient au sanctuaire, au temple, notamment dans les psaumes, cela nous fait voir plusieurs choses. Que lorsque nous vivons selon l'esprit dans ce temple que Dieu a fait de nous, notre âme trouve une sécurité parfaite. Notre âme est élevée devant des circonstances qui peuvent être pénibles. On est placé sur un rocher inébranlable. Notre âme est remplie de cantiques et de louanges à la gloire de Dieu. On comprend aussi que Jésus-Christ est notre refuge et qu'il est notre accès à cette présence de Dieu. On comprend aussi que Christ remplit notre vie de tellement de joie. Et ce psaume 84 nous rappelle encore une dernière chose. C'est que notre affection, le lieu de nos affections, de nos sentiments sont touchés aussi par la présence de Christ dans notre vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que être dans la présence de Dieu, c'est vivre une communion vivante, vivante, qui touche toutes les facettes de notre vie. Notre sécurité, notre joie, notre intelligence, notre connaissance, notre façon de voir la vie, tout est impacté jusqu'au moindre sentiment de notre vie, impacté par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Une communion vivante, Quand le psalmiste dira verset 3 qu'il a hâte d'être dans les parvis de l'Éternel, c'est pour aller voir le Dieu vivant. C'est une communion vivante que de vivre dans la maison de l'Éternel. Alors oui, ce matin, retournons à la maison de l'Éternel. Prenons le chemin qui nous conduit à la maison de Dieu. Le psalmiste se languit juste d'être dans les parvis, c'est-à-dire dans la cour. Vous êtes ce matin à l'intérieur de l'église. On vous a fait grâce de ne pas être à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est une grâce, puisqu'il fait chaud. Mais le psalmiste ici est déjà dans la joie juste d'être au pied ou juste devant l'entrée du sanctuaire. Nous avons aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, le privilège qu'à chaque instant, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela, ça change dans ma vie, concrètement, de tous les jours? Je ne vais pas répondre, je te laisse la question. Mais je voulais souligner que c'est un privilège énorme. Et on doit, malgré les circonstances des fois qui nous éloignent, vous savez, de ce désir ou de cette envie de retourner à la maison, on doit trouver les moyens de cultiver cet amour, de chérir la présence de Dieu. Je veux relire avec toi ce matin le verset 3. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Je vous la refais. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. J'aimerais pour terminer vous lire une petite lecture que j'ai faite pour préparer ce message et qui m'a montré une chose simple et qui me travaille. C'est que pour aller dans cette présence de l'Éternel, je dois être animé, en tout cas je crois, d'être animé de la même pensée qui a animé ce psalmiste, qui disait « je languis, je désire, je languis et je désire la présence de Dieu ». Et finalement, le passage que je vais vous lire d'un commentateur qui s'appelle Philippe Ribbe montre que finalement, si on n'a pas la nostalgie, il exprime nostalgie du jardin d'Éden, vous comprendrez dans quelques instants, mais cette nostalgie qui nous fait envier, qui nous donne envie de retrouver des moments fabuleux avec le Seigneur, eh bien, on a du mal à rentrer finalement dans cette invitation que le psaume nous laisse, dans cette communion vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous lis pour conclure cet extrait, en espérant que ça vous fasse du bien et que ça nous encourage aussi à désirer, à languir, pour aller dans la présence de notre Dieu, que ça soit ensemble chaque dimanche. On a l'opportunité pour, ça fait longtemps de vivre ensemble un dimanche comme celui-ci, mais tous les jours aussi, d'aller dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis. Quand j'étais jeune, je croyais que le mot mélancolie s'appliquait juste aux vieux, qui regrettaient tout, ce qui n'était plus. Et puis j'ai découvert que c'était plus profond que ça. En fait, ça remonte à très loin. À l'époque où nos plus vieux ancêtres, le premier couple dans le jardin, où tout est perdu à cause d'une énorme erreur. Une erreur qui leur a coûté leur beau paradis. Depuis, chez nous, leurs descendants, il y a au moins bien enfoui la nostalgie de ce jardin. Ce souvenir un peu douloureux de ce verger où il n'y a aucun danger et où chaque soir le Créateur venait les retrouver, papoter un moment avant de les border pour la nuit. Un peu plus loin, il dira, et puis je t'ai entendu toquer à ma porte. Donc là, il parle du moment où il accepte Christ. J'ai ouvert et tu es venu habiter avec moi, enfin en moi. Et là, j'ai découvert que tu portais ce parfum qui me rappelle ces soirées sublimes que je n'ai jamais connues, mais que paradoxalement, j'aspire tellement à retrouver. Tu m'as gentiment expliqué qu'un jour j'allais le connaître, ce jardin tellement beau, que juste d'y penser, j'en ai déjà un pincement au cœur. Mais en attendant d'y habiter pour de bon, Chaque fois que je te rencontre, je sens sur toi ce parfum de là-bas, de mon vrai chez moi qui m'attend, que tu es en train d'aménager et de décorer pour qu'il soit pleinement à moi. Chaque fois que je sens ta présence, il y a quelque chose en moi qui soupire, qui gémit, même parce que je suis tiraillé. Je veux vivre ici, mais ce là-bas me manque. Que le Seigneur nous dirige, c'est ma prière aussi dans ce que cet auteur met en avant, de languir et de désirer pour chaque instant de ma vie cette présence, ce goût qui est au fond de nous, là, de ce jardin d'Éden qu'il rappelle, et parce que nous allons habiter, lorsque Jésus reviendra, une plus grande demeure. Et c'est véritablement chez nous que nous serons. Je vous invite juste à la prière. Seigneur, parle encore à nos cœurs, Jésus-Christ. Fais de nos âmes, de notre être, en tout cas donne à notre vie ce soupir et ce sentiment qui languit après les parvis de ta présence, le parvis de ta demeure. Oui, que tout notre être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant que tu es et donne-nous de ne pas tomber dans des travers, dans des habitudes qui nous font oublier que ô combien il est bon d'être dans ta présence pour louer, pour adresser des paroles, des requêtes, des remerciements, pour te demander pardon, pour recevoir de ta main tellement de grâce. Merci Jésus-Christ parce que c'est ta justice, c'est ta vie qui nous permet de rentrer pleinement en communication avec notre Dieu, ce Dieu trois fois saint, ce Dieu dont le nom est au-dessus de tout nom. Sans toi, nous ne pourrions jamais aller dans ta présence. Et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous pouvons à chaque instant habiter dans ta maison. Nous n'avons pas besoin de venir ici tous les jours, mais à chaque instant, tu es avec nous parce que tu as fait de nous ton temple et ton esprit habite en nous. Bénis-nous tous, Seigneur, et que nous puissions chacun retourner, vivre ou emprunter ce chemin qui conduit à ta maison. Au nom de Jésus. Amen.